VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, à ce micro, il est midi à Niamey. Au moins 5 soldats nigériens ont été tués et plusieurs autres blessés mercredi dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. L'attaque a eu lieu à Tumo, une commune de la région de Diffa. Cette attaque intervient après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. En Guinée, l'assassinat d'un prêcheur saoudien et la mort du président des chasseurs traditionnels qui a été poignardé dans l'est du pays suscite un grand débat au sein de la communauté musulmane. Une enquête a été ouverte et les autorités locales ont procédé à des arrestations. Le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
Selon une source officielle, 5 personnes soupçonnées d'être liées à l'assassinat du prêcheur saoudien sont arrêtées. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de la mort du prédicateur. L'homme était très connu dans les milieux musulmans pour ses prêches et sa participation à la construction des mosquées. Il a été tué mardi sur le chemin de retour dans le village de Kantedougou, Balandou, à Mandiana, dans l'est du pays, alors qu'il venait de terminer une activité de prêche. Après l'assassinat du missionnaire saoudien, une réunion d'urgence a réuni le lendemain les associations islamiques, l'autorité préfectorale de Mandiana et les chasseurs traditionnels. La démarche visait à réunir tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur ce crime. Malheureusement, un autre crime sera commis juste après la rencontre. Le président des chasseurs traditionnels l'a accusé d'avoir organisé une réunion secrète quelques heures avant l'assassinat du Saoudien, a succombé à ses blessures après avoir été attaqué à coups de couteau par un jeune religieux. Dans la capitale, l'information est beaucoup commentée et ils sont nombreux des Guinéens qui attendent des réponses et les conclusions de l'enquête sur un crime commis dans un pays dont la population est majoritairement musulmane avec plus de 80% d'adeptes. Zakaria Kamara, Conakry, VOA Afrique.
Au Burundi, un groupe parlementaire d'opposition dénonce l'arrestation de plus de 40 de ses militants. Le gouvernement leur reproche de battre campagne contre le référendum avant l'ouverture officielle de la campagne. John Lindon fait le point.
Selon Pierre-Célestin Dikoumana, président de ce groupe, 42 militants du mouvement Ami Zéro Ya Barundi ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés depuis le 12 décembre. Ils sont accusés de faire campagne pour le non. Ce mouvement regroupait au départ les ex-rebelles du FNL dirigés par Agathon Rwasa et l'ancien parti unique UPRONA de Charles Ndidijé. Par la suite, M. Rwasa a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a lancé le 12 décembre une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle. La campagne officielle commence 2 semaines avant le référendum. Les Burundais doivent se prononcer sur un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 2 mandats de 7 ans. Ce référendum était initialement prévu en février. Il a été reporté au mois de mai.
En RDC, un mandat d'arrêt a été émis contre les organisateurs de marches pacifiques qui demandent au président Kabila de quitter le pouvoir. Selon l'AFP, citant une source proche du parquet, des mandats d'emmener ont été émis contre 5 des 8 responsables du comité laïque de coordination proche de l'épiscopat congolais reconnu par le Vatican. La raison du mandat d'arrêt n'a pas été précisée. Le motif vous sera communiqué sur place selon le texte du mandat d'après la source du parquet. Les responsables du comité se cachent actuellement dans Kinshasa et seraient sous la protection discrète de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, selon plusieurs sources. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn ont insisté hier sur leur volonté d'éviter le conflit autour du dossier du barrage éthiopien sur le Nil. L'Égypte craint que la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Quels sont les enjeux autour du Nil? Yacouba Ouédraogo a joint Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines.
Depuis des siècles, les eaux du Nil, ça c'est la vie d'Égypte. L'Égypte ne peut pas exister sans les eaux du Nil parce que c'est un pays agricole, il n'y a pas beaucoup de pluie. S'il y a une possibilité qu'il y ait une grande perte d'eau à cause d'Éthiopie ou Soudan, c'est très grave. Donc il faut qu'ils parlent et qu'ils discutent les moyens d'éviter une crise.
Le chef de l'État égyptien a appelé à l'apaisement avec l'Éthiopie et le Soudan, est-ce qu'il y avait des risques latents de conflit?
Oui, bien sûr, il y avait un risque de conflit. Je vois que le barrage que l'Éthiopie est en train de construire est très près de la frontière du Soudan. Donc, en cas de conflit, ce sera assez facile pour l'Égypte de faire des mauvaises choses contre ce barrage. Donc, c'est absolument essentiel qu'il y ait un accord sur le partage des eaux pour le bénéfice de tout le monde.
De quels moyens de pression disposent chaque partie, l'Égypte et l'Éthiopie? Le Soudan n'a pas pris part à ces dernières négociations.
Pour l'Éthiopie, c'est une chose faite, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire et rien ne va l'empêcher de construire. Donc, ils ont un grand atout là. Le Caire a des moyens militaires d'agir en cas de situation grave. Donc, il ne faut pas que l'Éthiopie dise « ça ne nous regarde pas ».
En mai 2017, le Caire, Khartoum et Addis Abeba ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les conclusions d'un rapport de deux cabinets d'expertise. En décembre, le ministre des Affaires étrangères éthiopien s'est rendu à Addis Abeba, échec de nouveau. La rencontre de ce jeudi n'a aussi rien donné de concret. Qu'est-ce qui achoppe véritablement dans les négociations entre ces différents pays-là?
Je ne suis pas au courant des détails sur la technologie, sur l'environnement, etc., mais je crois qu'ils doivent demander l'aide des pays neutres, des États-Unis, les pays européens, les Nations Unies, pour envoyer des experts neutres pour expliquer tout ça, pour faire des études. Je suis sûr que le financement est disponible.
Est-ce que vous pensez qu'il y ait une solution définitive à cette question-là?
Oh, certainement. D'ailleurs, je dois attirer l'attention à un ancien projet qui a été interrompu dans le sud-soudan. Ça, c'est le projet du canal de Jonglei. Ça, c'est le Nil Blanc. C'était un projet pour faire un canal pour détourner le Nil Blanc en dehors d'un grand marécage. Et s'il termine ce canal, ça peut ajouter beaucoup d'eau qui va vers l'Égypte. Vous savez, l'eau qui vient d'Éthiopie, c'est le Nil Bleu. Donc, j'espère que la Banque mondiale et les bailleurs de fonds vont peut-être réouvrir ce projet qui s'appelle Jonglei Canal.
Ça pourrait être une solution définitive à cette épineuse question?
À mon avis, oui, mais il y a beaucoup de problèmes là-dessus aussi. La stabilité du Sud-Soudan, mais je suis sûr qu'ils vont trouver des solutions là-bas aussi.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a assuré vouloir la présence d'observateurs étrangers lors des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir dans son pays cette année pour rompre avec les pratiques de son prédécesseur Robert Mugabe. En visite au Mozambique jeudi, dans le cadre d'une tournée régionale, Emmerson Mnangagwa avait annoncé que des élections seraient organisées au Zimbabwe dans 4 à 5 mois. Il a assuré qu'il veillerait à ce que ces élections soient libres, crédibles, justes et indiscutables afin que le Zimbabwe puisse être considéré comme un État démocratique. Roy Bennett, figure de l'opposition zimbabwéenne, est mort avec 4 autres personnes lors du crash d'un hélicoptère dans une région reculée du Nouveau-Mexique, ici aux États-Unis. Roy Bennett, ancien trésorier du parti d'opposition MDC, avait été arrêté au Zimbabwe en février 2009 alors qu'il allait prêter serment en tant que vice-ministre de l'agriculture au sein du nouveau gouvernement d'union. Il était accusé par le président de l'époque, Robert Mugabe, dont il était l'un des principaux critiques, de vouloir le renverser. Il s'était ensuite exilé en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a exprimé jeudi ses regrets auprès des ambassadeurs africains qui s'étaient dit outrés par les propos insultants prêtés à Donald Trump sur l'immigration, selon un de ses émissaires. C'est à sa propre demande que Nikki Haley a rencontré les ambassadeurs africains auprès des Nations Unies, qui avaient publié vendredi dernier un communiqué au langage très dur, exigeant des excuses au président américain pour ses propos racistes prononcés il y a une semaine lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Les propos de Nikki Haley ont été rapportés par l'ambassadeur de Guinée équatoriale, Anatolio Ndong Mba. Et puis, le Congrès américain a surmonté hier un obstacle à la Chambre des représentants qui a voté un budget provisoire pour éviter la paralysie des administrations fédérales. Mais la menace de chômage forcé pour des centaines de milliers de fonctionnaires pèse toujours, avec un vote très serré encore attendu au Sénat aujourd'hui. Date butoir ce soir, vendredi à minuit. Le Sénat doit d'ici là voter à son tour une telle mesure au risque de provoquer un shutdown, c'est-à-dire la fermeture d'un grand nombre d'agences fédérales. Jean-Roger Billon à ce micro. Bon après-midi à tous. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.